Cette année, GMF était le numéro 1 de la relation client dans le secteur assurance. C'est aussi ça, être assurément humain. Et en ce moment, profitez de 3 mois offerts pour toute souscription de contrat habitation jusqu'au 30 juin. GMF, assurément humain. Enquête 2026, Bearing Point et Kantar, conditions de l'offre sur gmf.fr.
Les Français qui venaient avec le livre de Bernadette à faire signer, ce qui était quand même quelque chose d'assez nouveau. Elle était devenue populaire et il y avait beaucoup de personnalités de droite, parce que un an après, il y avait c'était l'année des élections municipales. Bernadette Chirac était devenue une sorte de star qu'on invitait pour porter chance.
Merci beaucoup Anne Fulda de nous avoir répondu ce matin pour rendre hommage à Bernadette Chirac. Merci aussi à vous. Vous, Alain
Juppé.
Merci
à tous les deux.
Dernière question, répondez par oui ou par non. Vous ne lui en tenez pas rigueur de vous avoir qualifié de froid quand elle s'est rapprochée de Nicolas Sarkozy?
On le lui avait reproché, à elle aussi.
Donc, ça vous avait peiné?
Ça ne m'a pas peiné. J'ai pris ça comme un encouragement à me réformer. Voilà, c'était un conseil d'amis finalement.
Merci beaucoup à tous les deux.
Merci. Merci à vous deux. Il est 8 heures. Le journal, Corinne Audouin, bonjour.
Bonjour à tous. SFR va-t-il raccrocher? L'opérateur télécom est sur le point d'être racheté par ses concurrents Bouygues, Free et Orange. Accord conclu hier soir pour un montant de 20 milliards d'euros. Quelles conséquences pour les salariés, les abonnés et sur les prix? On vous explique dès le début de ce journal. Dans l'actualité aussi, une marche blanche sans slogan ni récupération politique. Cet après-midi à Florence, dans le Gers, c'est la volonté des parents de Liana. Jour d'élection en Arménie, des législatives sous surveillance russe. Nous irons au musée de l'histoire de l'immigration à Paris pour une exposition qui interroge les stéréotypes racistes. Et puis la quatrième fois sera-t-elle la bonne pour Alexander Zverev en finale dans le tournoi du Grand Chelem pour peut-être un premier titre à Roland-Garros? Ce sera dans le journal des sports. Avant vos invités à 8h20, Ali et Marion.
Ils sont trois pour nous alerter sur le cadmium, ce métal lourd trop présent dans les cigarettes, les poissons, les céréales et même les pâtes. Avec nous la députée Clémentine Autain, Mathieu Schuller de l'ANSES et le médecin Pierre Souvet.
Question-réaction, amis auditeurs, au 01 45 24 7000 ou l'application Radio France.
France Inter. C'est un Big Bang annoncé dans le secteur des télécoms. Trois opérateurs, Bouygues, Free et Orange, se sont donc mis d'accord pour racheter le quatrième, SFR. Montant de la transaction, plus de 20 milliards d'euros. L'accord a été signé hier soir avec Altice, le propriétaire de SFR, après des négociations âpres et plusieurs reports consécutifs. Bonjour Alexis Morel.
Bonjour Corinne.
Du service économie de France Inter. Alors le secteur des télécoms va donc se concentrer encore plus. Comment les trois géants vont-ils se partager les actifs de SFR?
Alors, ce n'est pas un accord à parts égales. Si la transaction va bien à son terme, Bouygues se taillerait la part du lion, plus de la moitié du chiffre d'affaires de son concurrent. Le reste réparti entre Free et Orange. Dans le détail, il est prévu que Bouygues récupère tous les abonnés professionnels de SFR, ainsi que 6 millions de clients particuliers, mobiles et fixes. L'ensemble de l'offre low-cost SFR partirait chez Free, soit là aussi environ 6 millions d'abonnés. Enfin, Orange accueillerait 5 autres millions de clients. Les trois groupes devront se répartir aussi les fréquences de leurs anciens concurrents.
Autre question qui inquiète beaucoup en interne, quel impact cela peut avoir pour l'emploi chez SFR?
Y aura-t-il des suppressions de postes, des économies d'échelle? C'est la crainte des syndicats. Ce matin, dans leur communiqué, les futurs acheteurs s'engagent auprès des 8000 salariés de SFR à ce que tous leurs emplois soient garantis au moins jusqu'à début 2029. Ils ne disent rien au-delà. Quel impact aussi sur les prix pour les abonnés? Avec un concurrent en moins, le retour à seulement trois acteurs. Les spécialistes du secteur anticipent une possible hausse, mais qui resterait limitée. Il faudra évaluer rigoureusement les impacts sur le marché et sur la diversité de l'offre, réagit d'ailleurs ce matin le ministre de l'économie, Roland Lescure.
Alors, il faut préciser, Alexis, qu'on est encore loin de la concrétisation de cet accord.
Oui, les opérateurs visent le second semestre 2027 pour que cette transaction devienne effective. D'ici là, il faudra obtenir le feu vert des autorités de la concurrence. Et ce ne sera pas une mince affaire, tant cette opération, vous le disiez, est d'une ampleur et d'une complexité rarement vues dans le secteur des télécoms en Europe. Charge ensuite à tout ce petit monde de gérer la migration des millions d'abonnés et des infrastructures. Là aussi, c'est un immense chantier. D'où l'extrême prudence des opérateurs ce matin. À ce stade, je cite le communiqué, il n'y a aucune certitude que cette opération soit réalisée.
À suivre donc. Merci Alexis Morel du service économie de France Inter. Le géant de l'armement Safran va investir 120 millions d'euros sur son site de Montluçon dans l'Aisne.
l'Allier. Dans la Tribune dimanche, le groupe annonce la création de plus de 150 emplois. À Montluçon, Safran produit des systèmes de guidage pour les canons César, des navires de guerre et des véhicules terrestres. Des technologies en pleine expansion depuis la guerre en Ukraine.
À Fleurance, le temps du recueillement pour Liana.
Avec une marche blanche cet après-midi pour rendre hommage à la collégienne de 11 ans. Son corps a été retrouvé jeudi, une semaine après sa disparition. Le suspect qui a reconnu l'avoir emmené en voiture à la sortie de son collège est en détention provisoire. Et au-delà des interrogations sur les failles de la justice et de la gendarmerie dans cette affaire, la famille de Liana ne souhaite aujourd'hui aucune récupération politique. Seuls les élus locaux seront d'ailleurs présents à cette marche blanche, comme le député Liotte du Gers, David Topiac.
Écoutez, j'y vais en tant que citoyen, c'est tout un territoire qui est traumatisé. Être aux côtés de la famille, mais aussi leur dire qu'on partage leur peine, on est à leur côté dans cette période particulièrement compliquée. Le fait aussi que cet événement soit extrêmement médiatisé les met aussi dans une situation compliquée, c'est-à-dire être touché par le décès de sa fille, être dans une période de deuil, mais être aussi dans un moment où d'hypermédiatisation à l'échelle nationale, c'est quelque chose qui est pas facile à gérer, surtout pour des gens qui voulaient rester discrets. Donc, on comprend tous ces ressentis qu'il peut y avoir de leur part et la volonté aussi de rester dans une cérémonie aujourd'hui, dans un moment dans la recueillement qui sera digne, quoi.
Le député David Topiac interrogé sur France Info. Dans l'actualité politique, le premier grand meeting de campagne de Jean-Luc Mélenchon cet après-midi et pour sa quatrième candidature à l'élection présidentielle, le leader de la France Insoumise a choisi Saint-Denis, ville symbole remportée par l'insoumis Bali Bagayoko aux dernières élections municipales. Elle a été l'une des premières à comprendre l'importance de la santé mentale des jeunes. C'est la Fondation des Hôpitaux de France qui salue ainsi l'engagement de Bernadette Chirac, disparue hier à l'âge de 93 ans. Une fondation qu'elle a présidée pendant 25 ans, ambassadrice de l'opération Pièce Jaune pour améliorer l'accueil des enfants hospitalisés. Bernadette Chirac a aussi œuvré à la création de structures pour les adolescents en souffrance, comme la Maison de Solène à Paris en 2004.
Un lieu d'accueil pour les jeunes filles et garçons anorexiques, en dépression, victimes d'addiction. En créant la Maison de Solène il y a plus de 20 ans, Bernadette Chirac a durablement marqué la santé publique et la prise en charge des adolescents, estime la psychiatre Marie-Rose Moreau, qui dirige aujourd'hui l'établissement.
Elle a imposé cette idée qu'il fallait des lieux spécifiques pour les adolescents. Elle a été pionnière, c'était pas une idée facile de défendre à ce moment-là la santé mentale des adolescents. Et elle en a été convaincue très tôt.
Un combat politique, un combat intime. Bernadette Chirac a accompagné de longues années sa fille Laurence, atteinte d'anorexie. L'argent des pièces jaunes a permis de financer un bâtiment d'un nouveau genre, explique Anne Barrère, vice-présidente de la Fondation des Hôpitaux.
Elle trouvait que les structures qui existaient en France étaient des structures fermées, qui interdisaient aux parents de voir leurs enfants. Et elle a voulu créer des lieux d'accueil où on écoute les jeunes, ouverts sur la ville. Elle disait, elle voulait des grandes baies vitrées, elle voulait des activités, de la danse, de la radio. Enfin, la vie, quoi. Elle voulait faire rentrer la vie dans ces maisons.
Aujourd'hui, le modèle des maisons d'adolescents a essaimé. Il en existe une centaine en France.
Alice Cachaner.
8h08 sur France Inter. À l'étranger, Corinne, un scrutin test pour l'Arménie aujourd'hui.
Oui, des élections législatives cruciales, en effet, qui viennent de s'ouvrir dans ce petit pays de 3 millions d'habitants entre le parti pro-européen du Premier ministre Nikol Pachinian et une myriade de partis pro-russes. Car Moscou voit d'un très mauvais œil ce rapprochement de l'Arménie vers l'Union européenne. Et la Russie a d'ailleurs récemment interdit l'importation de produits agricoles arméniens, ce qui inquiète les autorités, Marie-Pierre Véraud.
Un embargo sur la plupart des produits agricoles arméniens, c'est la mesure la plus douloureuse, alors que la Russie est de loin le premier partenaire commercial de l'Arménie, et cela inquiète cet agriculteur de la région du Sounik, dans le sud du pays.
Tous les paysans arméniens vivent grâce à la Russie. Nous y exportons nos produits. Et la Russie a interdit l'exportation d'eau minérale, de fleurs, je ne sais pas combien de produits. Comment le peuple va-t-il vivre? Est-ce que les dirigeants y pensent? Nous produisons des kakis, des figues, des grenades. Qui va nous les acheter? Comment allons-nous faire si la Russie ferme le passage aux camions?
Moscou multiplie les actes de désinformation, fausse une de journaux, accusant le Premier ministre de vouloir la guerre guerre avec la Russie, de fraude électorale ou encore d'abus sexuels. Mais pour le politologue Richard Guiragosian, ces tentatives de renverser le scrutin sont vouées à l'échec.
La stratégie de la Russie visant à intervenir et à s'ingérer dans les élections repose en grande partie sur l'intelligence artificielle, les fake news, qui sont beaucoup plus efficaces en général. Cependant, dans le contexte arménien, c'est un échec. La raison est simple. La Russie est vue comme toxique par les Arméniens. Ils se sentent trahis. C'est pourquoi le fait d'être pro-russe dans la politique arménienne est devenu suicidaire.
C'est l'abandon lors de la guerre du Haut-Karabakh que les Arméniens ne pardonnent pas à la Russie. Mais à la veille du scrutin, un quart d'entre eux se disait toujours indécis.
Marie-Pierre Véro. Et élection présidentielle cette fois au Pérou. Le résultat s'annonce serré pour ce deuxième tour entre la candidate de droite Keiko Fujimori, fille de l'ancien président Alberto Fujimori, et son rival de gauche Roberto Sanchez, qui a promis, je cite, de récupérer la démocratie. Retour en France pour une exposition qui interroge la question de l'origine comme puissant facteur d'exclusion et de stigmatisation. Elle vient d'ouvrir au Musée de l'histoire de l'immigration à Paris. Aux origines, regard croisé sur le racisme et les discriminations. Simon Le Baron l'a visité avec des collégiens d'Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis.
On va avancer.
Des œuvres d'art contemporain pour interpeller sur des représentations racistes bien ancrées, comme cette inscription en néon rose.
Et donc ici, il y a écrit quoi ?
Quand il y en a un, ça va ?
Quand il y en a un, ça va. Ici, en fait, cette phrase, c'était un politicien, un ministre de l'Intérieur français qui a dit ça, qui s'appelait Brice Hortefeux.
Et des chiffres, des données scientifiques pour expliquer les conséquences concrètes des discriminations.
Où est-ce qu'on pourrait avoir concrètement dans la vie de tous les jours des problèmes par rapport à ça ?
Le travail.
Quoi d'autre ?
L'école.
À l'école, bien sûr.
En face aujourd'hui, Nolan et ses camarades, d'origine multiple.
Des Arabes, des Pakistanais, des personnes d'Afrique, on peut trouver de tout. Moi, je suis un peu de tout, je suis sénégalais, espagnol. Du coup, ça fait tout d'un coup.
Des élèves qui, eux aussi, expliquent Lilia et Besma, relaient dans la classe ou dans la cour du collège certains stéréotypes.
Il y a les clichés, par exemple, les Arabes, c'est des voleurs.
Oui, ils parlent fort. Les Algériens parlent fort, oui. Du coup, énervés.
Ils sont têtus. Ouais, voilà.
Ça, c'est juste un cliché, c'est pas tout le monde.
Oui, c'est des insultes sur les origines, sur l'apparence physique.
Marie Nicolo, c'est leur professeur.
Des accents, donc c'est aussi pour essayer de lutter contre ça et de leur ouvrir un peu les yeux pour plus de respect entre eux sur tous les fronts.
Vaut mieux en rigoler qu'en pleurer.
Oui.
C'est philosophe ça, monsieur.
Une exposition pour réfléchir, pour s'interroger sur ses propres perceptions.
Ça s'appelle « Aux origines, regard croisé sur le racisme et les discriminations » à voir au Musée de l'histoire de l'immigration à Paris jusqu'au 23 août.
8h12, le journal des sports.
Avec Hugo Marceau ce matin, bonjour.
Bonjour.
En rugby, on peut être double champion d'Europe et hors de course pour le titre de champion de France.
Cruel destin que celui de l'Union Bordeaux-Bègles, bouté hier soir du top 6 lors de l'ultime journée dans son propre stade. Défaite 31-34 face à Clermont. Le manager Yannick Bru et ses hommes ne verront pas les phases finales du top 14.
Quand on perd 4 fois à la maison, bon, mais c'est difficile d'espérer quelque chose. Et puis c'est des défaites qui se ressemblent de peu dans les derniers instants sur pas grand-chose et sur des équipes qui marquent sans faire des choses compliquées. Mais c'est pas acceptable, c'est certain. C'est une grosse déception.
Et c'est La Rochelle qui en profite. Les Maritimes se déplaceront au Stade français Paris en barrage. Pau recevra le Racing 92. Montpellier et Toulouse attendent les vainqueurs en demi-finale.
Un club français en finale de Ligue des Champions à Budapest. Tiens, ça ne vous rappelle rien.
On souhaite aujourd'hui le même sort aux femmes du Metz Handball face aux Hongroises de Gyorg, aux hommes du Paris Saint-Germain Foot contre Arsenal. La dernière marche est immense pour les Messines. Faire plier les doubles le tenante du titre à domicile, qui plus est, coup d'envoi 18h. Ce sera après la finale homme de Roland-Garros qui, de l'allemand Alexander Zverev ou de l'italien Flavio Cobolli, décrochera le titre porte d'Auteuil. Un novice, quoi qu'il arrive, Fabrice Abgral, pour imiter Mira Andreeva, vainqueur hier.
Parce que, comme chez les dames, Roland-Garros offrira cette année un vainqueur inédit en Grand Chelem. Flavio Cobolli disputera sa première finale au plus haut niveau. Alexander Zverev, sa quatrième, mais les trois précédentes, le numéro 3 mondial, les a toutes perdues, dont une à Roland-Garros en 2024. Aujourd'hui, à 29 ans, Alexander Zverev mériterait d'étoffer un palmarès riche de 24 titres, dont deux Masters et un titre olympique à Tokyo en 2021.
La médaille d'or est la chose la plus difficile à gagner car on a une chance seulement tous les 4 ans. C'est spécial car il y a très peu de joueurs qui l'ont fait. Je ne l'échangerai contre rien au monde, mais ça ne me dérangerait pas d'ajouter quelques petites choses à cette liste.
Après le forfait d'Alcaraz et les éliminations prématurées de Sinner et Djokovic, Alexander Zverev se voit offrir l'occasion peut-être unique de remporter enfin un trophée majeur.
C'est maintenant ou jamais.
L'ex numéro 1 français Guy Forget.
Peut-être que ses défaites vont lui permettre justement de gagner cette finale. Et c'est vrai que s'il était en passe de gagner et qu'une nouvelle fois il passait au travers, ce serait vraiment pour lui dramatique.
Alexander Zverev peut devenir le premier Allemand à remporter Roland-Garros et le premier Allemand à s'imposer en Grand Chelem depuis Boris Becker à l'Open d'Australie en 1996. Il y a 30 ans.
Ça date, hein.
Zverev Koboli débute cette finale à 15h au plus tôt sur le cours Philippe Châtrier.
Et on termine avec du cyclisme, Hugo. Dernière répétition avant le Tour de France.
Avec le départ à 11h15 du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, ce qu'on connaissait sous le nom de Critérium du Dauphiné. Départ de Vizy, près de Grenoble, pour une semaine de course. Micros et caméras braquées sur un certain Paul Sexas, 19 ans, mais déjà favori. Le Français a désormais un statut à assumer.
Favoris, je sais pas, parmi les favoris, je pense. Il y a de très bons, excellents coureurs au départ, bien sûr. C'est quand même une des plus grosses courses par étape de l'année. Voilà, excepté les grands tours, c'est une course prestigieuse d'une semaine. Très prestigieuse, encore plus pour moi, parce que c'est le tour de ma région. Donc voilà, c'est un plaisir d'être ici. Le Tour Vendée-Alpes, c'est un bon point de passage. Beaucoup d'impatience surtout.
Premier test dès aujourd'hui avec déjà 4 ascensions au programme dans la vallée du Grésivaudan.
Paul Sexas, que je trouve incroyablement zen à 19 ans. Ouais. Merci Hugo Marceau.
C'était votre journal, Corinne Audouin. Merci à tous les deux. Il est 8h15.
La météo avec CNP Assurance. Jour après jour, avec CNP Assurance, assurons un monde plus ouvert.
Céline Dacosta, c'est une journée plus calme qu'hier.
Oui, avec moins de vent et moins d'averses. Sur la moitié nord, le ciel est quand même assez nuageux, surtout le long des côtes de la Manche, avec encore quelques faibles averses localement ce matin. Mais au sud de la Loire, le soleil va briller largement toute la journée, parfois simplement filtré par quelques nuages d'altitude. On aura juste dans l'après-midi quelques ondées qui pourraient se développer sur le relief des Alpes ou des Pyrénées, avec sur les Pyrénées peut-être même quelques coups de tonnerre. Et puis des nuages un petit peu plus épais arriveront sur la Bretagne, ce sera en fin de journée, des nuages annonciateurs de la nouvelle perturbation qui touchera surtout le pays demain lundi avec le retour de la pluie.
Et pour les températures ?
8 à 14 degrés, ça c'est la moyenne ce matin, avec 12 degrés à Paris, jusqu'à 19 degrés près de la Méditerranée pour Perpignan ou encore Montpellier. Cet après-midi, les maximales regagnent encore quelques degrés, 18 à 23 degrés du nord-ouest à l'Île-de-France et la pointe nord, les régions centre également. 21 à 27 degrés pour le sud et l'est, jusqu'à 30 encore près de la Méditerranée.
La météo de Céline Dacosta, à suivre un avant-goût du magazine Interception et le grand entretien consacré au cadmium.
Interception, le magazine de la rédaction, c'est juste après le journal de 9h. Bonjour Fabienne Sintès.
Bonjour Ali, bonjour Marion.
Bonjour.
Au programme d'Interception ce dimanche, juste après le journal de 9h.
Eh bien, Interception ce dimanche parle de sens. Et on va commencer par un sens inverse. Plus fréquent qu'on ne le pense, c'est celui d'Israéliens qui font ce qu'on appelle la Yerida. Vous savez ce que c'est ? Eh bien, c'est le contraire de l'Alia, tout simplement. L'Alia, c'est faire le choix de s'installer en Israël. La Yerida, c'est décider d'en partir. Et les chiffres commencent à être significatifs. 192 000 départs depuis 2022. Le solde est en train de devenir négatif à cause de la peur, quand on habite au nord d'Israël, par exemple, à cause, évidemment, du 7 octobre, à cause aussi de la politique de Benjamin Netanyahou. Ce sont des gens qui ne se reconnaissent plus dans leur pays et ne supportent plus la tension qui y règne. Or, il existe un endroit très étonnant où va vous emmener Cécile Bidot, où 70 familles déjà se sont installées en l'espace de 2 ans et demi seulement, entraînées par le premier arrivé qui s'appelle Hugo, et vous allez le rencontrer. Ce lieu, c'est une petite ville du Piémont, une ville qui s'appelle Valero, 7000 habitants seulement, une nouvelle vie. Pas toujours simple, hein, tout recommencer dans une autre langue. L'ironie, c'est que ce village, figurez-vous, a une place qui s'appelle la Nouvelle Jérusalem, et ça, c'est depuis l'âge des croisés. Mais vous allez comprendre que ces Israéliens, justement, ne cherchent pas à bâtir une communauté, ils veulent réellement s'intégrer, être dans la vie locale, et la ville y trouve réellement son compte. L'autre reportage de ce dimanche, c'est une quête de sens cette fois. Écoutez Garance.
Prénom, c'est comment ?
Garance. Je suis partie d'Agro en lutte depuis pas très longtemps.
Tu étais mobilisée sur le campus aussi à Saclay ?
Oui.
T'es restée jour, nuit et tout ?
Oui, oui, bah, on a essayé d'inverser un peu le rapport de force, protester contre ce qui se passe dans notre école, les problèmes de démocratie qui se posent, comme le fait qu'il y a Christiane Lambert, qui était l'ancienne présidente de la FNSEA, qui est dans notre conseil d'administration. C'est l'agro-industrie qui est majoritairement représentée, parce qu'il n'y a pas qu'elle, c'est vraiment juste symptomatique de toutes les autres personnes qui sont dans notre conseil d'administration. On n'a pas envie d'une école comme ça, en fait. Pour l'instant, en première année, c'est très généraliste. Donc, faut avoir une marge, faut augmenter la marge brute. Enfin, c'est des calculs et des choses un peu vides de sens, quoi. Nous, on aimerait apprendre les alternatives et pouvoir changer le monde.
Voilà, heureusement qu'on veut changer le monde après tout. Hein. Quand on a 20 ans, elle est donc étudiante, vous l'avez entendu, à AgroParisTech, Garance, qui forme des ingénieurs agronomes. Vous vous souvenez de ces 8 diplômés en 2022, lors de la remise des diplômes, qui avaient vertement critiqué les enseignements de leur école, l'agriculture intensive, le manque de respect de l'environnement. Cet esprit frondeur, il existe encore aujourd'hui. Et vous allez suivre les futurs diplômés dans des actions coup de poing, accompagnés d'ailleurs parfois de leurs collègues, futurs ingénieurs aussi de Centrale Supélec. Et vous verrez que avec leur cerveau bien fait, hein, ce sont des jeunes diplômés, ils veulent mettre tout ça au service d'une cause qui les anime. Ceux-là, en tout cas, on ne les retrouvera pas dans les grosses entreprises qui les attendent normalement à la sortie de l'école. Ce sont peut-être eux, les ingénieurs, qui nous permettront de bâtir un autre monde demain, allez savoir. En tout cas, eux, ils y croient ferme et le reportage, il est signé Anaël Verzo.
À tout à l'heure, Fabienne.
À tout à l'heure.
France Inter, 11h, François-Régis Gaudry.
Ce dimanche, la plancha. Cette plaque chauffante était cantonnée au sud-ouest. Son succès s'étend aujourd'hui à toute la France. Leçon de cuisine à la plancha.
On va déguster tous les dimanches à 11h sur France Inter.
Penny Lane, l'outil compta facturation et compte pro présente.
Quand la compta va, tout va.
Mais attention, dès le 1er septembre 2026, fini les factures papier ou envoyées avec outils non homologués. Toutes les entreprises devront passer à la facture électronique. Heureusement, avec Penny Lane, vous êtes déjà prêt pour la réforme de la facturation électronique. Découvrez Penny Lane, l'outil qui réunit compta, facturation et compte pro. Et demandez vite conseil à votre expert comptable. Penny Lane.
Quand la compta va, tout va.
Mercedes-Benz.
Il y a 140 ans, Carl Benz déposait son premier brevet de véhicule motorisé. Et depuis, Mercedes-Benz n'a jamais cessé d'innover. Pour célébrer cet anniversaire, découvrez nos 14 nouveaux modèles équipés des toutes dernières technologies Mercedes-Benz. Et jusqu'au 30 juin, profitez d'offres sur de nombreux modèles électriques et hybrides comme les nouveaux GLB, GLC et CLA. Rendez-vous chez votre distributeur. Conditions sur mercedes-benz.fr.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
8h21.
France Inter. Ali Badou. Marion Lourd. Le 6-9.
Et un grand entretien ce matin consacré à un sujet majeur de santé publique, à une bombe sanitaire. Selon un collectif de médecins, j'ai nommé le cadmium, une proposition de loi visant à réduire les risques sanitaires liés aux contaminations au cadmium vient d'être adoptée cette semaine à l'Assemblée nationale. Pour comprendre ce dont on parle, notre surexposition du fait de sa présence dans le pain, les pâtes, les céréales et j'en passe. Question, réaction, amis auditeurs, au 0140 25 24 7000 ou l'application Radio France. Et trois invités dans le studio d'Inter pour en parler. Clémentine Autain, bonjour.
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 Députée de Seine-Saint-Denis, vous avez porté cette proposition de loi qui a été adoptée cette semaine avec le député écologiste Benoît Biteau. Mathieu Schuller, directeur général délégué du pôle Sciences pour l'expertise de l'ANSES. Bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que l'ANSES, c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, entre autres. Pierre Souvet, médecin cardiologue, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes avec nous depuis Marseille, cofondateur de l'association Santé Environnement France, auteur de Antitoxique, le guide des polluants cachés, c'est aux éditions Albin Michel. Partons d'abord par un exercice de pédagogie avant de parler de la proposition de loi que vous avez portée, Clémentine Autain. Mathieu Schuller, qu'est-ce que le cadmium ?
Alors le cadmium, c'est une substance chimique, c'est un métal qui va se trouver déjà naturellement présent dans les sols et dont la présence peut être renforcée si on va rajouter des engrais, des intrants Alors pourquoi rajouterait-on du cadmium pour mieux faire pousser les plantes? En fait, c'est pas le cadmium qu'on rajoute, c'est du phosphore. Le phosphore, c'est un des trois aliments indispensables pour les plantes, azote, phosphore, potassium. Et il se trouve qu'un certain nombre d'intrants du végétal dans lequel pour lesquels on ajoute du phosphore vont contenir du cadmium. Et ce cadmium, bah comme c'est un métal, il est très stable, et il va se tourner, cycler dans l'environnement, passer du sol aux plantes, aux aliments, revenir à travers l'eau. Et donc c'est bien pour ça qu'on s'intéresse à l'imprégnation de la population. Quel est le niveau d'exposition?
On va en parler, évidemment, parce que donc c'est un métal qui, petit à petit, contamine ainsi l'ensemble de la chaîne alimentaire. On peut le dire aussi simplement que ça. Pierre Souvé, en quoi est-ce une bombe sanitaire?
Alors, j'emploie plus bombe ou scandale, parce qu'en fait, ça dérive sur des noms, sur une formulation, le problème qui est majeur, puisque ça atteint le cerveau, ça atteint le système cardiovasculaire, ça atteint les os, la reproduction, le rein, et ça favorise de nombreux cancers, entre autres. Et je passe sur les problèmes d'immunité et de foie. Oui. Donc, le problème, c'est que, comme il est cumulatif tout au long de la vie, quand nos enfants ont des taux extrêmement élevés, quatre fois supérieurs aux pays similaires, eh bien, ils partent avec un handicap. Donc, il faut absolument, c'est une priorité pour le présent et le futur, limiter cette exposition.
Alors, c'est vrai que vous avez été l'un des premiers à alerter sur les dangers du cadmium. Clémentine Autain, vous avez parlé dans votre question au gouvernement du 31 mars d'un enjeu sanitaire majeur. Vous avez ensuite porté une loi avec Benoît Biteau en ce sens, mais enjeu sanitaire majeur, rien de moins, il y avait urgence?
Absolu, parce que d'abord le cadmium, ce métal lourd qui passe, comme on vient de le dire, hein, des engrais à nos assiettes et donc à nos organismes, reste dans notre corps de 10 à 30 ans. Et les effets, ils sont multiples. Ce sont des problèmes d'ostéoporose, des maladies rénales, c'est un perturbateur endocrinien, c'est un des facteurs de l'explosion du cancer du pancréas et d'un certain nombre de cancers.
Avec des catégories de la population qui sont particulièrement exposées et vulnérables.
Les femmes enceintes, surtout les fœtus en fait, hein, qui sont contaminés, et les classes populaires, puisque ce cadmium, on le retrouve en particulier dans les céréales du petit déjeuner, les gâteaux pour les enfants, les pommes de terre, mais aussi dans le chocolat, les crustacés. Il y en a partout. Il faut le dire, c'est impossible d'éviter le cadmium. Et c'est un problème très français. Parce que la France elle ne s'est même pas mise en conformité avec la réglementation européenne. C'est un peu technique, mais il faut dire ce chiffre. Oui. En réalité, selon le rapport de l'ANSES, il faudrait 20 mg par kilo d'engrais.
On est à 90.
On est en France dans une réglementation qui permet d'aller jusqu'à 90. Et la réglementation européenne, c'est 60 mg. Mais des pays qui ont déjà dit qu'il fallait 20 mg, eh bien, sont moins contaminés que nous. Donc on est un pays où la contamination de la population est explosive. Donc il y a urgence à agir. Et je veux le dire assez solennellement, Ali Badou.
Oui.
Ils savaient et ils n'ont rien fait. Les gouvernements se sont succédés et l'inaction a dominé. Moi, je suis très en colère parce que c'est l'irresponsabilité. Aussi bien des ministres de l'Agriculture, Julien Denormandie, Marc Fesneau, Agnès Pannier-Runacher, avaient préparé des décrets. Et ces décrets ne sont jamais sortis. Donc nous avons pris nos responsabilités.
La promesse qu'on les appliquerait en 2038.
Ça, c'est la promesse d'Annie Genevard, parce que le dernier décret d'Agnès Pannier-Runacher était mieux disant par rapport à ce que prépare Annie Genevard. Et ce qui me met un peu en colère ce matin, c'est que la représentation nationale a voté cette loi qui est celle de la réglementation à 20 mg par kilo d'engrais, comme le suggère l'ANSES, pour protéger la population. Et Annie Genevard, la ministre présente, nous dit, au fond, il est urgent d'attendre. Comme d'ailleurs l'extrême droite.
Et c'est suffisamment rare d'ailleurs à noter qu'une proposition de loi soit adoptée aussi largement à 144 voix contre 22. Assez exceptionnel, on va le dire.
Parce qu'il y a un enjeu de santé publique et que nous avons eu le scandale de l'amiante, nous avons eu le scandale du chlordécone et nous sommes en passe d'avoir un scandale du cadmium. Je dis au gouvernement, il ne faut pas attendre, il faut immédiatement prendre des décrets, et des décrets avec une trajectoire, puisque c'est le mot qui a été utilisé, qui soit celle qui nous permet dès 2030 d'aller à ces 20 mg par kilo.
Alors Mathieu Schuller, ce qui relance, en tout cas ce qui nourrit ce débat et qui nourrit cette loi, c'est aussi votre rapport du 24 mars dernier, qui n'est pas le premier, il y en a eu d'autres avant, et c'est vrai que ça fait 50 ans en réalité qu'on parle du cadmium, et qui montre que certains seuils sont dépassés, qu'il y a un seuil d'alerte qui est dépassé. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ?
Alors en fait, notre premier rapport effectivement en 2019, donnait déjà cette cible à 20 mg par kilo, et qui en fait n'est pas une cible spécifique uniquement pour les engrais, on ne s'intéresse pas uniquement aux engrais, on s'intéresse à tout ce qui apporte du cadmium sur le sol.
Donc c'est une cible pour la santé, c'est ça ?
C'est une cible pour la santé et il ne faut
pas trop nuisible pour la santé, voilà, en réalité.
Il ne faut pas dépasser 2 mg par kilo par hectare et par an. Pour tout, parce que les engrais peuvent apporter, les effluents d'élevage peuvent également apporter du cadmium. Pourquoi on a remis sur le métier un rapport en 2025, et donc on a sorti au début de cette année,
oui.
C'est tout simplement parce qu'on a eu cette observation. Nos collègues de Santé publique France font périodiquement une mesure de l'imprégnation, c'est-à-dire finalement qu'est-ce qui résulte dans les organismes de la population en matière de niveau d'exposition au cadmium. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'entre notre rapport de 2019 et le nouveau rapport de santé, la nouvelle étude de Santé publique France, ce niveau avait encore augmenté.
Et là, on s'est... Et très fortement.
Significativement. Et là, on s'est dit en tant qu'agence, on ne va pas attendre la prochaine étude de Santé publique France pour dire, zut, ça a encore augmenté. Donc, on a analysé les leviers pour agir et l'alimentation en fait partie.
Mais alors, c'est sidérant justement, parce que c'est